Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonsoir, chers auditeurs.
Bonsoir, chères auditrices.
Et bienvenue dans Cours d'honneur, la meilleure émission de Radio Sorbonne Université.
Tenue par votre joyeuse bande de la première radio étudiante de la plus belle fac de France.
Oui, c'est officiel.
Votre duo préféré a été remplacé par le futur duo le plus mémorable de Cours d'honneur.
Rien que ça. Et oui, il est temps que les jeunes remplacent les vieux. C'est donc avec la mascotte de l'émission, toi, Victoire.
Et avec toi, la tête brûlée de la bande, ma chère Mélie, que nous allons présenter cette émission.
Donc pas de panique, n'éteignez pas votre radio. Ce soir, on vous promet une émission plus qu'à la hauteur.
Avec du rire.
Vous êtes moniteur d'auto-école.
Ouais.
Ça fait longtemps.
Ouais.
Il a un rire extraordinaire.
Mais aussi des débats poignants.
Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Messieurs.
Et surtout, de bons conseils.
Boire de l'eau, sûrement, ne rien manger, puis rester au lit, je suppose.
Ah ben, faut boire un bon bouillon le matin. À jeun.
Et ce qui est bon, quand on a une bonne crise de foie, c'est un jus de citron, avant la crise de foie aussi.
Ensemble, nous répondrons à la question.
Être étudiant à la Sorbonne, c'est quoi ?
Dis-moi, Victoire, si les vieux nous ont quittés, qui nous accompagne ce soir ?
Très bonne question, Mélie. C'est le 109 de l'émission qui nous entoure ce soir. Jeanne, après la débrouille la semaine dernière, que nous as-tu préparé aujourd'hui ?
Eh bien, ce soir, j'interview Alice Poisson de la Direction des Affaires Culturelles de Sorbonne.
Malo, escrimeur hors pair, tu t'attaques à quoi ce soir ?
Eh bien, ce soir, je vais parler des paniers anti-gaspi.
Et toi, Abel, qu'est-ce que tu nous as prévu ce soir ?
Ce soir, je fais l'édito sur Roscoff.
Et puis Thomas, régisseur, chroniqueur et parfois animateur à ses heures perdues, faudrait vraiment qu'on songe à valider son stage.
Ouais, c'est vrai que mon CV commence à être bien fourni, j'espère enfin qu'ils vont finir par me prendre définitivement dans cette longue émission. Ce soir, dans le pavé de culture, eh bien, je vous propose de faire un bond dans le temps via 1968, la Sorbonne démembrée. Vous entendrez tout, vous saurez tout.
Et enfin, le clou du spectacle, elle n'est pas là ce soir, mais nous a tout de même préparé un petit micro-trottoir. C'est Lilou, on t'embrasse.
Bref, une sacrée équipe pour une sacrée émission.
Un mercredi sur deux et en direct un vendredi par mois.
Cours d'honneur, saison 3, épisode 11.
Et pour bien préparer nos vacances,
notre émission bretonne, voici l'édito.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Demain commence la grande aventure à Roscoff.
Aujourd'hui, Abel vous présente cette station balnéaire bretonne qui sera notre résidence pour 4 jours.
Eh oui, je sais déjà ce que vous vous dites. Comment ça, c'est Abel qui fait l'édito, on préfère quand il raconte des conneries à l'animation. Oui, et bah moi aussi je prends des vacances, figurez-vous. D'ailleurs, j'étais au ski et c'était super. Bref, même si elle est très intéressante, on n'est pas là pour raconter ma vie, mais plutôt celle de l'équipe. Car oui, l'équipe avant tout. Et vous savez où elle va l'équipe de cours d'honneur demain, jusqu'à dimanche ? À Roscoff, évidemment, pour rencontrer nos camarades du campus océanographique de la Sorbonne. Et là, vous me redites, on le sait Abel, ça fait 2 mois qu'avec Claudine, vous ne nous lâchez pas avec ça. Effectivement, mais vous ne savez pas à quel point c'est bien Roscoff. Alors, comme l'édito, c'est à la base une liste, un top, que dis-je, un podium, voici une série de choses à faire et à savoir sur cette belle station balnéaire du Finistère. Roscoff, qui se dit Rosco en breton, est une petite commune de Bretagne de 3000 habitants, plus les 8 oiseaux qui arrivent demain. Cette commune fut dans l'histoire d'abord un repère de pirates et de contrebandiers qui faisaient trembler le commerce de la Manche. De nos jours, on y retrouve un superbe jardin botanique recueillant plus de 3000 espèces différentes, noté 4,5 sur 5 sur Google quand même, c'est sympa ça, ou encore la superbe cidrerie Caraval où Thomas passera ses soirées noyées et noyant définitivement tout espoir d'un Dry January. Pour les adeptes de balades matinales, laissez-vous tenter par une promenade le long du port sur le quai Charles de Gaulle. Vous y croiserez la petite fabrique charmante crêperie vue sur mer ou encore la plus connue de toutes, la chapelle Sainte-Barbe de Roscoff qui nous offre un point de vue sur la baie de Morlaix incroyable. Et puis, si après votre balade l'envie vous vient d'un petit billard, il y a peut-être des aficionados de ce jeu parmi nos auditeurs, n'hésitez pas à passer rendre visite à l'amicale Roscovite de billard. Comme quoi, il s'en passe des choses en province. Et pour finir cet édito court, mais c'est pour ne pas vous spoiler, venez nous rendre visite à l'hôtel du Chardon Bleu de Roscoff, séance d'autographes et de dédicaces avec vos chroniqueurs préférés, le tout arrosé de chouchennes et autres liqueurs d'exception. Bref, j'espère que cet édito vous a envie d'aller à Roscoff, ou du moins juste de nous écouter quand on y sera. En tout cas, moi j'ai déjà fait ma valise et évidemment, il y a un maillot de bain dedans.
Merci Abel, on a hâte de vous signer des autographes. Mais Victoire, qui dit Roscoff dit bord de l'eau, et qui dit haut dit bas.
Et d'ailleurs, dans la vie, il y a des hauts,
il y a des bas.
Maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Le projet de la loi immigration, après avoir été validé à l'Assemblée nationale, est entre les mains du Conseil constitutionnel jusqu'à demain, jeudi 25 janvier.
Mais avant même la promulgation de la loi, Sorbonne Université a publié un communiqué dénonçant les mesures, je cite, « indignes de notre pays qui nuisent à l'ambition de l'enseignement supérieur ».
Et vous, estimez-vous qu'il faudrait augmenter les droits d'inscription pour les étudiants étrangers ? On vous a posé la question.
On devrait les accueillir comme il se doit, comme on le fait là tout de suite. Ils ont une très grande place au sein de l'université. Il y a énormément d'étudiants étrangers qui viennent et qui sont intéressés justement par l'éducation française. Et ils devraient avoir exactement les mêmes droits que nous. Le droit de pouvoir étudier auprès de nous sans avoir ce genre de problème, sans devoir à payer plus ou quoi.
La France a toujours été perçue comme un pays extrêmement riche au niveau culturel et au niveau de ce qu'il a à toute son histoire qu'elle diffuse à l'étranger. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a depuis la Renaissance et même avant. La France a été un berceau de culture pour beaucoup. Je sais que déjà, certains étudiants étrangers devaient payer des frais d'inscription plus élevés que nous, pour avoir discuté avec des personnes pendant ma licence. Et c'est vrai que...
Ça te paraît normal ou pas ?
Je sais pas. J'en avais discuté avec des étudiantes qui étaient italiennes et qui, elles, trouvaient ça totalement normal de payer plus cher parce que, et que dans tous les cas, ça restait déjà beaucoup moins cher que ce qu'elles payaient à l'université en Italie. Mais c'est vrai que dans toute ma licence, on était plus de 300 et il y avait 5-6 étudiants étrangers. Ça a toujours été incroyable de faire des travaux de groupe avec eux et d'avoir différents points de vue, en fait. Et le fait que les inscriptions soient plus chères, c'était peut-être un rejet pour certains étudiants étrangers qui du coup ne venaient pas en France. Je trouve que c'est vachement intéressant de faire venir des gens d'ailleurs et je pense qu'on devrait peut-être faire en sorte de rendre cet accueil plus accessible.
L'éducation publique en France se targue de donner accès à la culture à tout le monde pour les mêmes moyens. Et je vois pas pourquoi quelqu'un qui ne vient pas de France ne devrait pas avoir le même droit qu'un Français. C'est égalité, fraternité et c'est pas dit égalité et fraternité que pour les Français. Donc non, ça devrait pas être.
Avec Mélie, juste avant l'émission, on a croisé deux étudiantes étrangères et qui nous demandaient leurs bons plans pour les restaurants, pas chers justement. Et c'est vrai que du coup, cette question du coût des études en France se pose. Et vous connaissez des étudiants étrangers ? Est-ce que vous en avez discuté avec eux ?
Alors, discuter avec eux, non, pas forcément. Mais c'est vrai que pour voir enfin des étudiants qui viennent de tout bord, enfin j'ai discuté avec une Anglaise en particulier et c'est vrai que déjà les frais d'inscription enfin de l'université en Angleterre, mais c'est hallucinant, on passe les 10 000 euros des fois, c'est vraiment super cher même pour des gens qui vivent là-bas. Donc par principe, devoir les faire payer encore plus maintenant, c'est vraiment devenir un modèle américain, donc c'est totalement stupide en soi, mais bon, après ce n'est qu'un avis.
Bah, je trouve que c'est, ça, cette loi ne sera juste ira en fait surtout contre l'enseignement supérieur, parce que surtout dans les grandes écoles, et dès que la loi a été votée, il y a eu beaucoup d'indignation de la part des grandes écoles. Là, je cite même pas la Sorbonne, je cite HEC, Polytechnique, qui se rendent compte que la moitié de leurs étudiants, en vrai, c'est des étrangers, parce que c'est eux qui ont plus le niveau que des étudiants français, mais c'est pas grave, c'est comme ça.
C'est le cas à l'ENS aussi.
Ouais, en fait, ils viendront plus. Et donc, juste, ça ne, ça, cette loi, je sais pas ce qu'elle est censée défendre ou ce qui est protégé. Tout ce qui est sûr, c'est que l'enseignement supérieur en pâtira. Et je pense que la doyenne de Sorbonne Université, qui s'était indignée contre cette loi a eu raison, parce qu'elle est la première à savoir que une partie de l'excellence de la Sorbonne est due aux étudiants étrangers. Et puis voilà. Nous, quand on va faire à l'Erasmus à l'étranger, on est accueillis. Ok, c'est plus cher. Bah justement, on devrait être fier qu'une université de prestige comme la Sorbonne ne soit pas chère, mais donc ne soit aussi pas chère pour les étudiants étrangers qui, c'est pas parce qu'ils viennent de l'étranger faire leurs études en France qu'ils sont riches en fait. Pour la plupart, ils ont même moins d'argent que des étudiants français qui vivraient en France.
Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà songé à étudier à l'étranger, et auquel cas, est-ce que le coût des études a pu être dissuasif?
Moi personnellement, j'aurais bien voulu partir à l'étranger. Après, c'est vrai que j'ai fait prépa au début, et après j'ai eu un parcours un peu chaotique, donc j'ai pas eu cette chance. Mais c'est sûr que quand on va étudier à l'étranger, il y a quand même un coût. Ça dépend dans quel pays on va, mais en général c'est très cher, la fac comme vous disiez. Et puis le logement, si c'est dur de trouver, etc. Et puis on est loin de chez soi.
Après, on parle pas des étudiants issus de l'Union européenne. Là, dans le projet de loi, ce sont les étudiants internationaux hors Union européenne. La question peut se poser en termes de finances. On sait que depuis 2020, on a dépassé les 3 000 milliards d'euros de dettes en France. Est-ce que c'est aux contribuables français d'assumer les frais d'inscription de ces étudiants internationaux chez nous, et non pas à eux qui, certes, viennent en France, participent au rayonnement de nos universités et de notre enseignement supérieur? Mais est-ce que la période serait favorable ou pas? Est-ce qu'en fait, c'est une question de choix? Est-ce qu'on doit se dire, certes, ça nous coûte cher, mais ça profite à notre rayonnement, ou c'est peut-être une dépense négligeable en ces temps de disette?
C'est tout à fait une question de choix, mais on a aussi fait le choix d'accueillir les JO, qui nous coûtent un argent monstrueux.
Oui, après, c'est des budgets, c'est pas la même chose.
Après, les budgets sont gérés comme ça.
Hein. Comme disait une personne dans le reportage, je crois, 7 étudiants étrangers dans une licence de 300, je suis pas sûr que ce soit les étudiants étrangers qui fassent le trou. Je pense que c'est plus... je sais pas, les fraudeurs fiscaux. je pense pas du tout que ce soit ou l'aide médicale d'État ou alors les 7 étudiants étrangers d'une licence à la Sorbonne qui fassent payer le contribuable français et qui fassent que le pays soit endetté. Honnêtement, et puis au pire, pourquoi ne pas augmenter les frais de scolarité pour tous les étudiants? Parce que là, l'argent rentrerait vraiment dans les caisses, parce qu'il y a des millions d'étudiants, il y a quelques milliers d'étudiants étrangers. Autant augmenter de 10 euros les frais d'inscription pour un étudiant français. Là, l'argent rentre vraiment, parce que juste taxer les étrangers, ça s'appelle... c'est un nom quand on fait quelque chose juste pour les étrangers, que je ne dirai pas ici, mais c'est un nom.
Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter?
Non, si ce n'est par rapport à la question de tout à l'heure. J'ai songé à partir en Angleterre l'année prochaine, mais quand tu regardes les prix, tu pars pour entre 17 000 et 25 000 euros, quand tu ne prends pas en compte le loyer qui est à la semaine. Donc c'est vrai qu'en France, on a une chance, et détruire cette chance pour des milliers, j'imagine, d'étudiants en France, en tout cas, c'est assez dommage.
Et pendant qu'on parle d'Angleterre, c'est la pluie que j'entends, là?
Je te jure, c'est carrément le déluge en ce moment, j'en peux plus.
Neige?
Pluie.
Moins 5 degrés.
Pluie.
Verglas?
Pluie, toujours, hein.
Du coup, on vous propose un son qui vous parle de...
De pluie.
À écouter sous la...
La pluie.
C'est Orelsan feat. Stromae, et ça s'appelle...
La pluie.
Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qu'on pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau.
y a plein de petits vieux. Où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux. Où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe. Où tout le monde cherche une place, une éclair dans le monospace. Je freestyle dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Chez moi il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Chez moi y'a du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau. Autant de pluie chez moi. Toujours 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 autant de pluie chez moi.
Vous êtes toujours sur Cours d'honneur, il est 20h17.
Et d'ailleurs, sur Cours d'honneur, on parle de la vie des étudiants de la Sorbonne.
Et de leurs enseignants.
On ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Comme tous les soirs, on accueille une nouvelle invitée.
Ce soir, Jeanne, tu fais l'interview d'Alice Poisson.
Bonjour Alice Poisson.
Bonjour.
Vous êtes chargée de projet et de communication à la direction des affaires culturelles de Sorbonne. Vous êtes également spécialiste de l'agenda culturel de Sorbonne Université, dont vous allez nous parler ce soir. L'agenda culturel de la Sorbonne a récemment été publié pour la période de janvier à mars 2024. Cet agenda recense donc des expositions et autres événements culturels qui ont lieu à et hors Sorbonne. Quel est le principe de cet agenda? Sur quoi est-il fondé?
Bien, le principe de cet agenda, c'est de recenser tous les événements qui sont organisés au sein de l'Alliance Sorbonne Université. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire. Tous les événements de l'Alliance Sorbonne Université sur 3 mois. Il paraît tous les trimestres. Et là, donc, vous l'avez dit, c'est janvier-mars 2024.
Comment les événements qui apparaissent sont-ils sélectionnés? Comment l'agenda est planifié?
Comment ils sont sélectionnés? C'est vraiment un appel à contribution, donc on essaie de toucher tous les services et toutes les personnes qui contribuent à la programmation culturelle de Sorbonne Université. Et ensuite on fait une sélection, mais en vrai il n'y a pas tellement de sélection. Tant que c'est un événement culturel ou un événement qui touche des aspects de la société, on le fait figurer dans l'agenda. L'idée c'est d'être exhaustif, donc d'avoir tous les événements qui ont lieu en Sorbonne.
Sur la première page de l'agenda culturel figure le mot de Frédéric Billet, vice-doyen de la vie étudiante, lieu de vie et développement durable à la faculté de lettres de Sorbonne. Dans ce texte, les Jeux Olympiques sont mentionnés comme une opportunité pour Sorbonne, mais alors quelle opportunité représente cet événement pour l'université?
Parce qu'on va recevoir de nombreuses personnes, enfin, à Paris en tout cas, on va avoir de nouveaux publics. Et nous, il se trouve qu'on a... qu'on va organiser un grand concours de poésie et qu'on va relancer les épinicies, qui sont donc des poèmes qui étaient des louanges aux artistes lors de l'Antiquité. Donc on va relancer ce grand thème des poèmes sportifs pour l'occasion des JO 2024.
D'après vous, comment la culture peut-elle participer à la réussite de l'étudiant tout au long de sa formation?
Je pense que ça fait partie de... Ça fait partie de l'ouverture qu'on essaie d'inculquer aux étudiants au sein de Sorbonne Université. Et la culture doit avoir sa place dans le cursus de chacun et chacune. Donc c'est une richesse, une ouverture en plus. Et des rencontres, c'est énormément pour moi la culture. Donc je pense que ça peut enrichir...
Ma prochaine question portait justement sur ce concours de poésie, puisque à l'occasion des JO, il y a donc l'édition 2024 des Épines ici. Comment est née cette idée d'allier Jeux Olympiques et concours de poésie?
En fait, ça a toujours existé durant la guerre antique. On a toujours lié poésie et Jeux olympiques. Donc l'idée, c'est juste de relancer ce qui a existé au cours de l'Antiquité, de relancer à notre époque.
Avec le coût d'augmentation de la vie et la hausse des prix des billets de musées, des grands musées notamment, la culture n'est pas forcément au centre des priorités des étudiants. Comment rendre plus accessible la culture ?
Alors nous, tous nos événements sont gratuits. Donc vraiment, où vous bénéficiez... Enfin, tous nos événements ne sont pas gratuits, mais la plupart de nos événements sont gratuits. Et sinon, on propose évidemment des tarifs réduits aux étudiants de Sorbonne Université.
Qu'est-ce qui fait la richesse de Sorbonne Université en termes de pluralisme culturel par rapport à une autre université ?
Qu'est-ce qui fait la diversité, pardon ?
Qu'est-ce qui fait la richesse de Sorbonne Université en termes de pluralisme culturel par rapport à une autre université ?
Alors, Sorbonne Université, c'est 3 facultés, une faculté de sciences, une faculté de santé, une faculté de lettres. Donc, c'est évidemment une grande diversité avec de nombreux chercheurs et de nombreux projets culturels de tous horizons.
D'accord. Pour cette année 2024, y a-t-il un certain type d'événement que vous voudriez mettre plus en avant, ou du moins un domaine artistique que vous voudriez mettre plus en avant ?
On a 3 temps fort pour ce trimestre 2024 qui s'annonce. On a en ce moment l'appel à candidature Sorbonne Live, donc qui est un tremplin musical étudiant qui est ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Université. Cet appel à candidature termine le 10 mars à minuit. On invite tous les étudiants artistes de Sorbonne Université à s'inscrire et à tenter leur chance. On a aussi le concours Fleurs d'éloquence qui se relance cette année avec des formations tout au cours de ce premier trimestre. Un concours qui sera organisé du 23 mars au 17 mai. Les inscriptions sont lancées aussi.
Mais d'ailleurs, tant que j'y pense, on a une double lauréate du concours de poésie des Épiphanies, puisque Mélina a été double lauréate. Et puis, on pense fort à elle. Et puis, cours d'honneur est aussi dans l'agenda, puisque nous sommes présents le 31 janvier de midi à 14h à Malesherbes. Absolument. Et le 27 février de 20h à 21h à Richelieu. Et donc, ma dernière question, que représente Sorbonne Université pour vous ?
Que représente Sorbonne Université pour moi ? Alors, je l'ai déjà dit, une immense diversité, beaucoup de gens passionnés qui essaient de faire vivre la recherche, beaucoup de culture et des étudiants super qu'on essaie de mettre en avant dans notre programmation culturelle.
Merci beaucoup, Alice Poisson, d'être venue.
Merci pour votre présence ce soir, Alice Poisson. Jeanne, tu nous as coupé l'herbe sur le pied. Nous aussi, on voulait parler des événements culturels. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant, à part que Mélie est sur le document à ne pas rater, s'il vous plaît. Il y a aussi, plus généralement, nous, on est cours d'honneur, on appartient à Radio Sorbonne Université, le festival de RSU qui a été récemment annulé, malheureusement, mais peut-être décalé. On espère, en tout cas, on vous tient au courant.
Ah oui, parce que moi, je vais faire une chronique et elle est super fun.
Voilà. Mmh. T'as tout dit.
J'espère que le plafond ne tombera pas sur la tête de cet événement qui va être bientôt préparé, qui sera le Radio Sorbonne Université version 2.0 et renouvelé.
Exactement.
On espère.
On touche du bois même.
Ouais, on touche du bois. Mais Victoire, après cette super interview et cet agenda de ministre, quoi de mieux que de se plonger dans l'univers sonore d'un autre endroit dans lequel on parle de com ? Mais d'ailleurs, que vois-je ?
Un pigeon voyageur qui nous apporte du courrier ?
Mais oui !
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
C'est la carte sonore qu'on vient de recevoir.
Chaque mois, on vous fait visiter un lieu emblématique de la Sorbonne.
Une visite radiophonique guidée par cours d'honneur.
Cette semaine, on vous fait découvrir un nouveau campus, du jamais vu, que dis-je, de l'inédit dans cours d'honneur.
Et oui, Lilou nous présente le CELSA à Neuilly-sur-Seine.
Bonjour, je m'appelle Salomé, je suis étudiante en parcours marque au CELSA et c'est ma première année, donc bienvenue au CELSA. Donc là, on est actuellement dans l'entrée. Devant moi, j'ai un grand panneau avec marqué CELSA Sorbonne Université, juste au-dessus de l'accueil. Et en fait, cette pièce n'a d'entrée que le nom, puisque ce n'est plus là qu'on entre. On a des belles portes qui sont censées s'ouvrir automatiquement, mais qui restent fermées à cause du plan Vigipirate. On longe le mur à côté du CDI. Donc il y a une fenêtre qui nous permet de voir les ordinateurs. Oui, assez moderne, puisque c'est des ordinateurs récents. On voit des prises, les chaises sont assez modernes, elles sont unies, c'est pas une ambiance baroque ou quoi que ce soit. Et bien maintenant on continue, on se dirige vers la cour extérieure. Et bien maintenant, un peu d'air frais, on est dehors, abrité sous le couloir extérieur en haut. C'est pas une cour immense, il y a une petite partie avec de la verdure, de la pelouse, des buissons, des petits arbustes, etc. Mais on a des petits panneaux pelouse interdite, pas très accueillants. Puis alors en été, on y mange beaucoup parce qu'on n'a pas vraiment d'endroit plus agréable pour manger. Là, on est en extérieur, on respire et on verra la grotte tout à l'heure, mais c'est moins sympa. Et là, on arrive devant la porte du Grand Amphi. C'est là où la majorité des cours pour les étudiants en L3 ont lieu, parce qu'on a pas mal de cours magistraux. Alors, pour moi qui étais en prépa et qui n'avais pas de cours en amphi, ça me paraît être un grand amphi, mais je crois que ce n'est pas le cas de ceux qui étaient à la fac. La capacité doit être de 150 maximum. Il y a 4 chaises et un long bureau pour que les professeurs puissent s'asseoir. Alors, j'ai pas l'habitude de m'asseoir sur cette chaise, parce que d'habitude, c'est plutôt les profs, mais elles sont plutôt confortables. On a une vue très panoramique sur tout l'amphi, des premiers rangs jusqu'aux chaises derrière où on s'assoit quand on n'a pas prévu de prendre tout le cours en notes, et des chaises qui sont repliées. Les strapontins, merci. Pour tout le reste de l'amphi, c'est une table en bois qui fait toute la rangée.
On a deux micros portables et un autre filaire.
Je vous invite maintenant à sortir pour qu'on aille voir la grotte, comme on l'appelle ici au CELSA. Et on descend par un escalier un peu exigu. Ça sent un peu le renfermé et la nourriture réchauffée au micro-ondes. Mais vous ne verrez pas une cafétéria vendre de la nourriture ici. Chacun ramène son déjeuner. On a deux micro-ondes. Un baby-foot au fond de la salle, pour ceux qui ont le temps de s'amuser. C'est bien appréciable. Plein de gens qui mangent et qui discutent. Des machines à café aussi, bruyantes mais réconfortantes. Une que vous faut pas espérer voir un jour fonctionner, mais l'autre, si vous avez du liquide, c'est bon, ça fonctionne. Donc c'est ici que la visite termine. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver au CELSA.
En parlant du CELSA, où on fait de la com et du journalisme, autour de la table, il y en a certains qui se sont inscrits pour les concours des écoles de journalisme.
Oui, je confirme, les 70 euros sont partis il y a 3 jours. Avec les épreuves qui arrivent bientôt en février.
Tu présentes quel concours ?
CELSA, CFJ, en total 6, mais selon le portefeuille, hein, ça passe, ça casse, on verra bien.
Okay. Il n'y a aucun concours qui soit gratuit ?
Ils sont tous payants,
payer les inscriptions,
sauf
madame.
Un, je crois que c'est l'IFP qui est à 18 euros, donc
ouais,
ça va,
c'est pas trop cher.
Par rapport à d'autres, c'est raisonnable.
Et les autres autour de la table, aucune vocation pour
aucune vocation,
la com ou le journalisme.
Aucune vocation.
J'avoue que je ne me suis pas trop encore renseigné, mais je crois qu'il y a des masters de journalisme un peu à l'IFP, à SAS, ouais, mais qui ne sont pas dans le concours de journalisme, mais qui sont pas mal, j'ai l'impression.
Peut-être. C'est sur monmaster.gov, mais c'est pas reconnu par la profession, je crois.
Ah oui, voilà.
Ouais, parce que c'est pas, il n'y a pas une histoire d'école reconnue.
Mais les 14 donc, écoles qui se mettent d'accord et qui font de l'argent sur ça. Non, moi, je ne fais pas de... Je présente aucune école de journalisme du tout.
On est déçus.
Bah, en vrai, payer les concours, déjà payer les concours, quoi. T'es même pas sûr de rentrer, tu payes le concours.
Ouais.
Enfin, Victor.
Je sais pas, j'ai pas encore d'argent.
Oui, mais c'était
gratuit. On verra ça dans 3 ans. C'est dans 3 ans. Avant de laisser notre breton faire sa chronique, accueillons-les en grande pompe avec une chanson que nous a suggérée le Pigeon Voyageur.
Eh oui, vous la connaissez.
Nous la connaissons.
Elle nous berce depuis 2021.
C'est pour toujours
du breton Luigi Pekka.
Jamais l'âge d'être rangé. Toujours l'impression que la vie veut me manger. Moi j'aime trop la vie et ses dangers. Désolément, je fais que suivre des étrangers. Hypnotisé par étranger, bloqué dans le même after depuis des années. Ça fait longtemps, je les ai même pas vus passer. Comme l'écran de mon iPhone, je vois même plus que je suis cassé. Ma vie à fuir, pourquoi ai-je peur de prendre risque? À force de courir, j'ai défoncé mes ASICS. Bloqué dans mes souvenirs, je fais que déclencher des soupirs. Allez leur dire qu'on a peur de grandir. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Sur le droit chemin, je fais plein de détours. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Pour toujours, pour toujours. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Je voulais pas grandir, mais on m'a pris court. Je veux pas rater ma vie, mais je fais tout pour. Pour toujours, pour toujours. Si je creuse assez mon découvert, je trouverai peut-être du pétrole. Persuadé que je pourrais tout faire, mais qu'il y a sans doute mieux à faire ailleurs. Y'a pas que dans mes pensées que je me perds, je risque d'exploser en plein vol. Je serais incapable d'être un bon père, j'y pense en zonant comme un ferrailleur. Je cherche de nouvelles couleurs où tout est terne. J'abandonne dès qu'il faut remplir un papier. Que ça soit elle ou une autre, je vais les perdre. Regardez-moi, je nage où j'ai pas pied. Être heureux, je sais pas faire. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Sur le droit chemin, j'ai fait plein de détours. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Pour toujours, pour toujours. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Je voulais pas grandir, mais on m'a pris court. Je veux pas rater ma vie, mais je fais tout pour. Pour toujours, pour toujours. Je crois qu'il y a un vide que j'arriverai pas à combler. J'y pense assis sur la pile de mes projets abandonnés. Pour toujours des enfants terribles, on va pas changer. On le fait pour le plaisir de se mettre en danger. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Sur le droit chemin, j'ai fait plein de détours. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Pour toujours, pour toujours. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Je voulais pas grandir, mais on m'a pris court. Je veux pas rater ma vie, mais je fais tout pour. Pour toujours, pour toujours.
Je sais pas. Après les distributions alimentaires de l'association Copains de Jeanne,
c'est Malo qui nous parle des paniers anti-gaspi.
Tout de suite, c'est la chronique des brouilles.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, top table!
Effectivement, aujourd'hui, Malo, tu compares les deux leaders en France de paniers anti-gaspi, Too Good To Go et Phoenix.
Et oui, Mélie, en effet, les deux applications fonctionnent plus ou moins de la même façon. Ce qui se passe, en fait, c'est que les commerçants mettent en ligne des paniers qui contiennent leurs invendus alimentaires. Le client va réserver le panier et venir le chercher sur un créneau horaire défini, souvent le soir ou après le service du midi. Le prix de vente est plus souvent de un tiers de la valeur réelle, voire moitié prix. Et l'objectif, c'est principalement la lutte contre le gaspillage alimentaire, même si certains commerçants ne jouent pas toujours le jeu, malheureusement. Alors on commence avec Too Good To Go. L'application a été lancée en 2015 au Danemark. Too Good To Go, on peut traduire ça par « trop bon pour être jeté », pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et actuellement, ils sont leaders dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais quels sont les points forts de Too Good To Go? Bon, tout d'abord, ils ont un réseau de plus de 40 000 commerçants partenaires. On va retrouver Monoprix, Auchan ou encore Starbucks. Il y a aussi le boulanger du coin ou le boucher. Le nombre d'utilisateurs de l'application, il y a plus de 15 millions de téléchargements rien qu'en France, donc c'est assez considérable. Hein. Je suis sûr qu'autour de la table, vous avez déjà tous utilisé Too Good To Go ou une application similaire. Et les Français ont sauvé plus de 60 millions de paniers depuis 2016, donc c'est assez considérable. Maintenant, les points faibles de l'application, c'est du point de vue des commerçants, les frais qui sont assez importants. Alors Too Good To Go facture aux commerçants 1,09 € par panier et il y a 39 € de frais administratifs annuels. Et si le panier coûte plus de 4 €, ce qui est souvent le cas, le prix le plus bas, généralement, c'est 3,99 €, et ben la plateforme va prendre une commission de 25%. Donc les commerçants ne font pas vraiment de marge. Quoi. C'est plus pour se faire connaître, etc., et éviter de jeter les invendus. Et la nouveauté de 2023, c'est que Too Good To Go a lancé les colis anti-gaspi. Alors le but est simple, c'est d'intégrer directement dans la lutte contre le gaspillage les industriels et les grossistes en rendant accessibles aux consommateurs leurs invendus. Donc par exemple 4 kg de pâte d'amande rose, des boissons énergisantes en poudre ou encore 36 dosettes de boissons. Voici quelques exemples de colis proposés sur l'application. On enchaîne avec la deuxième application Phoenix, un peu moins connue mais qui a été créée avant en 2014 en France et propose plus ou moins les mêmes fonctionnalités que Too Good To Go. Alors ses points forts, c'est que Phoenix est quand même très transparent, plus que Too Good To Go. Il reverse 80% du montant du panier aux commerçants. Donc ils sont plus rémunérés. Il y a des filtres qui sont très précis sur l'application, des filtres alimentaires sur les préférences. Par exemple, si vous êtes végétarien, vegan, vous pouvez choisir ça. Mais ça va aussi plus loin, parce qu'on peut paramétrer l'appli pour se voir proposer que des paniers qui peuvent être halal, kasher, bio, des produits locaux, sans lactose, sans gluten, ou encore zéro déchet. Enfin, c'est très varié, alors que sur Too Good To Go, il y a beaucoup moins de filtres possibles. Et un autre atout qui est assez intéressant pour les gens qui travaillent, c'est qu'on peut payer avec des tickets restaurants dématérialisés, là où sur Too Good To Go, bah, vous payez avec votre carte bancaire. Et les points faibles pour terminer de Phoenix, bah, y a un petit peu moins de commerces qui sont présents, mais vous avez un peu une réciprocité entre les deux. Là où des commerces ne seront pas sur l'autre, et bah, ils seront sur l'autre application. Donc il faut avoir un peu les deux et voir ce qui vous convient en termes de commerce dans votre quartier. Et puis bah, forcément, les prix sont un peu plus élevés vu qu'ils rémunèrent plus les commerçants. Et il y a aussi un peu moins de surprises parfois sur le contenu des paniers, parce qu'on peut savoir à l'avance ce qu'on va acheter, mais est-ce que c'est forcément grave ? Voilà.
Merci Malo pour ce plein d'infos gratos. D'ailleurs, vous, autour de la table, vous n'avez pas de micro, mais Malo, exprime-toi. As-tu déjà entendu, enfin, tu avais du coup déjà entendu parler de ces différentes applications, mais est-ce que tu les as utilisées ou tu t'es renseigné, enfin, est-ce que tu as expérimenté le sujet ?
En effet, c'est une bonne question, Victoire. Bon, j'ai pas précisé, mais on a fait un épisode de Sors Bon Plan, qui est un autre podcast de RSU, sur le sujet plus en détail, donc vous pouvez le retrouver sur les plateformes. À peu près 15 minutes, on explique ça bien en détail. Et personnellement, moi, j'utilise Too Good To Go et Phoenix depuis à peu près presque 3 ans. Et j'en suis à plusieurs centaines de paniers. Et franchement, c'est pas mal. Ça m'aide à faire des économies, éviter le gaspillage. Et ça permet de découvrir des nouvelles choses, de cuisiner, etc. Donc, je vous le conseille à tous.
Et bienvenue à Madeleine qui nous rejoint.
Merci beaucoup.
Est-ce que tu as un avis sur la question ?
Too Good To Go, très bien. Très bien, très bon plan. Parfait. Vraiment, je recommande aussi. J'ai pas essayé le reste, mais Too Good To Go est très très bien. Très rentable.
Les autres sur la table ?
Mais non, j'ai jamais essayé pour tout savoir, mais j'ai la meilleure technique anti-gaspillage, ça s'appelle un petit frère. Donc honnêtement, moi, c'est ma mère, passe mieux des fois.
Alors moi honnêtement, je sais pas, moi je... Elle vole la bouffe de son petit frère dans l'assiette, c'est ça qu'elle explique. Voilà, son petit frère meurt de faim. Moi, je sais pas, mais genre Too Good To Go, j'ai essayé. Et oui, on me parle. Too Good To Go, j'ai essayé. Et en tout cas, dans le 11e, il y a pas grand-chose. Enfin, en tout cas, autour du quartier de Nation, là où j'habite, il y a vraiment pas beaucoup de commerçants qui proposent. C'est vraiment des trucs pas fous. Je sais pas, c'est Thomas qui habite juste en face de chez moi, il dit ça, ou alors il a trop d'argent pour ce genre de conneries.
Ouais, non, mais t'es juste deck, parce qu'en fait, il te propose seulement du quinoa, du fromage affiné avec du lait de soja d'amande, et que c'est pas du tout des choses que tu manges, toi, sur Too Good To Go dans le 11e, moi j'imagine. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est à la fin de la journée, un peu les invendus, comme tu nous expliquais, Malo, qu'ils mettent en vente à des prix un peu modiques, et ben, les épiceries fines du 11e arrondissement ne sont visiblement pas de ton goût, Abel?
Bah, elle ne me propose même pas, en fait. Il y a vraiment, ouvrez Too Good To Go dans le 11e, il n'y a pas de commerçant qui propose des paniers Too Good To Go.
D'accord. Et alors moi, je n'ai pas du tout compris, c'est quoi le petit frère anti-gaspi ? Faut m'expliquer, là.
Mais remarque, tu as fini, c'est plus faim, donc tu lui refiles la bouffe. Au moins, je ne gaspille pas. Ah, voilà.
Je suis d'accord avec elle.
Moi, j'ai grandi à la campagne, j'avais des poules, et on balançait par la fenêtre derrière la maison, et elles venaient après manger au fur et à mesure de la journée. Et donc, on a une adepte ici, c'est Madeleine. Mais alors, toi, tu achètes quoi comme type de panier, un peu ?
Bah, surtout en boulangerie, en général, parce qu'il y a beaucoup de choses, genre sandwich, pain, tout ça. Sinon, dans les magasins bio, il y a pas mal de trucs aussi, au niveau des légumes, c'est cool. Et après, c'est vraiment au feeling, quoi. Dans le 20e, il y a beaucoup de choix, par contre. Donc, du coup, c'est chouette. On a plein de d'options.
Où ça, dans le 20e ?
Belleville.
Ok. C'est trop long, ok, je vois. Ok, bah.
Mais toi, t'as les crêpes de Thomas en face de chez toi.
C'est vrai, ouais, parce que quand il est là, quand il est en vadrouille. Non, mais Too Good To Go. Phoenix, en tout cas, j'ai essayé une fois et je me suis rendu compte qu'il y avait plus de trucs que Too Good To Go. Et en plus, c'est français. Alors, c'est mieux.
En parlant d'économie, de thunes,
de bif,
la quicheta,
le flouze, Thomas, ça le connaît.
On peut vous en dire quelque chose, il racle à chaque verre post-émission.
Mais c'est qu'il charbonne, le petit. Alors il a pas chômé, il nous a préparé une nouvelle chronique pavée.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Il boude parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas ?
Mais oui, chers auditeurs, chères auditrices, chers collègues de cours d'honneur, j'ai une fois de plus l'extrême chance de pouvoir vous parler des savoirs inutiles, donc complètement indispensables, du pavé de culture. Je me fais mon lancement moi-même, moi d'ailleurs, c'est n'importe quoi. Vous voulez me lancer quand même pour le plaisir ?
Ouais, ça va, t'as bien commencé, on te laisse faire.
Avec plaisir, alors écoutez-moi bien. Moi, ça fait 10 ans maintenant que j'ai quitté la Sorbonne. 10 ans, 10 années qui se sont écoulées avec beaucoup de joyeuseté, beaucoup de bonheur. À cette époque-là, on écoutait encore ce morceau-là. Lonely Boy, c'est un morceau de The Avener qui est sorti à l'époque où moi-même j'étais étudiant. Mais sachez que aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un savoir ancestral de la Sorbonne. Vous savez, j'ai l'habitude de vous raconter souvent la vie de Richelieu. Non, aujourd'hui on va pas parler de Richelieu, on va faire un petit bond dans le temps. Direction 1968. Vous entendez le bastion qu'était la Sorbonne. C'était des manifestations étudiantes qui avaient débuté le 22 mars à la faculté de Nanterre, tout simplement parce que les garçons n'avaient pas accès au dortoir des filles. Un certain Cohn-Bendit avait hurlé au scandale, et autant vous dire que les autorités l'avaient pris un peu de haut. Oui, voilà, c'est cela. Faites bien les malins autant que vous voulez. Nous, on va continuer à vous empêcher d'y accéder. Qu'à cela ne tienne, leur répondent les petits jeunes. Nous allons déclencher la première émeute. Ce sera en mai 1968, le 3 mai exactement. Des centaines d'étudiants se rassemblent dans la cour d'honneur de la Sorbonne.
On est des vandales, quoi. On est des salisseurs.
C'est interdit, ça n'a pas de sens, mais c'est ce qui me plaît, quoi.
Oui, c'est comme ça qu'ils se présentent. Ce sont vraiment des petits saligots qui viennent foutre un peu le bordel dans notre belle cour d'honneur, le nom de cette émission même. Et bien immédiatement, ils se retrouvent encerclés par la police. La police qui a été appelée par le recteur de Sorbonne Université, qui les traite immédiatement de zouaves.
Comment ? Moi, Tournesol, je fais le zouave !
Voilà comment est-ce qu'ils prennent cette appellation, les étudiants qui sont pas des zouaves, hein, ce sont des trotskistes, des maoïstes, des anarchistes, des katangais même, armés de manches et de pioches, ils sont prêts à l'affrontement. Alors en faisant appel à la police, eh bien le recteur président de l'université déclenche la première émeute, la grève générale va venir au soutien de ces étudiants, grève générale déclenchée par un certain Georges Ségui.
Les discussions qui réunissaient avec les représentants des organisations syndicales, ceux du patronat et ceux du gouvernement.
La grève générale est lancée en 1968 dans la Sorbonne et petit à petit, ce sont toutes les universités qui vont se rassembler tous ensemble comme un seul homme. L'appel de la divine providence, chaque étudiant se sent investi d'une mission pour faire tomber le vieux monde. C'est une expression que l'on connaît bien aujourd'hui, mais déjà à cette époque, en 1968, on a envie d'abattre la société à la papa menée par le général de Gaulle. Très bien, eh bien le général de Gaulle va en profiter pour dissoudre l'Assemblée en 1968. Ouais, autant vous dire que immédiatement c'est le scandale, c'est le bordel dans la capitale parisienne. Mais pour faire face à ces étudiants qui sont tous assemblés comme un seul homme contre la société qu'ils trouvent un peu trop vieillotte, eh bien, le général de Gaulle va s'attaquer à la réforme universitaire avec la nouvelle Assemblée nationale qui est élue en juin 1968. Cette réforme universitaire, elle va aboutir en 1971 à l'éclatement de l'université parisienne en 13 universités nouvelles. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule université de Paris dont le siège était ici même avec nous, à la Sorbonne. Les annexes sont partagées entre les différentes universités filles. Le complexe de la Sorbonne, propriété de la ville de Paris, est placé dans un régime d'indivision géré par la chancellerie des universités de Paris. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et on va ainsi créer Paris 1, Panthéon Sorbonne, Paris 2, Panthéon Assas, Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Paris 4, vous n'avez pas connu, mais moi à l'époque, quand j'étais étudiant à la Sorbonne, ça s'appelait toujours Paris 4. Et on va diviser entre les centres Pierre Mendès France, le centre Sancier, le centre Clignancourt également, où nous serons en direct à la fin de l'année. Et petit à petit, eh bien, on va assister à cette grande division des universités qui aujourd'hui se rassemblent derrière d'autres alliances aujourd'hui, qui pourraient d'ailleurs faire craindre le pire. On a connu, vous vous rappelez peut-être, il y a 2 ans à la Sorbonne, un blocage où les forces de l'ordre avaient répondu avec beaucoup de véhémence.
Oui, c'est bien sûr, évidemment, c'est toujours ma faute.
Voilà, on avait envoyé directement la police pour dégager la Sorbonne qui avait été fermée pendant 24 heures. C'était en 2021, un an après la Sorbonne. Eh bien, c'était un an après le Covid. La Sorbonne était de nouveau plongée dans la tempête. Et pourtant, cette Sorbonne que l'on aime tant, eh bien, va connaître une nouvelle voie, une nouvelle renaissance. Mais ça, je vous en parle dans le prochain épisode du Pavé de Culture. C'est à ce moment-là qu'on essaiera de déterminer quelle voie a pris la Sorbonne pour affronter les 50 prochaines années.
Lao Tzu a dit « Il faut trouver la voie ».
Ah oui.
Moi, je l'ai trouvée. Il faut donc que vous la trouviez aussi.
Oui. À vrai dire, je suis là pour ça.
Et ensuite, vous connaîtrez la vérité.
Est-ce que vous le dites ?
Mais tout d'abord, je dois vous couper la tête.
Alors, on va peut-être pas couper la tête de nos auditeurs tout de suite, mais je vous raconterai la nouvelle version de la Sorbonne moderne après son démembrement en 1968.
Merci Thomas pour tous ces savoirs, mais dis-nous, toi, en mai 68, t'as plutôt jeté les pavés ou tu les as reçus sur le coin?
Non, moi j'étais un CRS, hein, j'allais casser ces petits gauchos là, moi j'étais clairement du côté des forces de l'ordre, les pavés, on se les prenait sur la tronche, oui, on a donné notre peau, oui, clairement, il fallait empêcher ce mouvement progressiste soi-disant, mais qui était surtout une envie de coucherie, hein. On se rappelle de Cohn-Bendit qui voulait traverser le couloir pour aller rejoindre le dortoir des filles de Nanterre.
Tu as parlé également d'un autre blocus, celui d'il y a 2 ans de la Sorbonne. Alors moi, personnellement, ça, au risque de ne pas vous rajeunir, j'étais au lycée encore, pas ce blague de français. Mais vous étiez où? Vous faisiez quoi? Vous avez bloqué Abel, toi probablement, le sens bien.
Oui, maintenant que j'ai un micro. Il y a 2 ans, 2021, j'étais au campus Clignancourt. Et donc, j'étais pas là. Voilà. Mais l'année dernière, occupation du campus Clignancourt, l'équipe de RSU, donc de la radio Sorbonne Université, moi-même et la coprésidente Louise, nous sommes infiltrés dans l'occupation du campus de Clignancourt. Nous avons escaladé les grilles, nous avons passé une journée entière avec les gens qui occupaient le campus, qui s'étaient organisés, imaginez une sorte de ZAD dans un campus. C'était très marrant, l'épisode est disponible sur Spotify, allez l'écouter. Non, mais j'étais pas là, en 2021, ni en 1968, mais en tout cas, on peut voir que Thomas, on peut voir ce qu'il pense des mouvements sociaux et des gens qui expriment leurs idées, quoi. C'est un peu la dictature avec lui.
Toi, Jeanne ?
Mais j'étais pas là, j'étais en prépa il y a 2 ans, donc on a fait blocus dans mon lycée. Mais alors, quand on est en prépa, en général, on râle plutôt sur les gens qui font le blocus en disant putain, on n'arrive pas à aller en cours. Donc là,
tout. J'avais vu, il n'y a pas des histoires de prépa littéraire qui devaient fermer, il y a eu plusieurs blocus.
C'est le cas, c'est toujours un mouvement actuel. C'est des petites prépas qui vont fermer, a priori, Lamartine et une classe de Chaptal, puisque apparemment, il n'y a pas assez de monde ou il y a trop de boursiers. Pas trop suivi, mais c'est à peu près cette idée.
Est-ce que quelqu'un d'autre sur le plateau, Madeleine peut-être?
Non, moi j'y étais pas, mais mentalement je soutenais les étudiants. J'étais de tout cœur avec eux.
J'étais pas là non plus, je sais pas si j'étais encore à Rennes ou déjà à Paris 9, mais voilà.
Bon, nous on va pas se rebeller, on va plutôt se la couler douce à Roscoff. Vous avez hâte?
Oui, c'est là qu'il faut inventer un truc sur Roscoff. Moi, j'ai hâte, surtout que si vous avez écouté mon édito, il y a l'amicale Roscovite du billard dans la salle polyvalente de Roscoff. Alors, je vais évidemment aller rencontrer mes amis. Non, je rigole. Non, mais ça va être sympa. Je pense que ça va être une belle aventure. Du bon travail radiophonique, évidemment.
Un bon voisin de chambre.
Je dors avec Thomas qui met des cibles kangourou moulant et qui ronfle, voilà. Mais sinon, je pense que ça va être sympa et je pense qu'on a tous hâte, n'est-ce pas, Thomas?
Ouais, ouais, effectivement, je ne porte que des slips et je ronfle un peu, mais c'est toi qui auras l'insigne honneur de partager la chambre avec moi. Non, mais on va pas faire que cela coule douce, hein. On va vous préparer des super programmes dans ce site océanographique, la station biologique de Roscoff, ça s'appelle, qui existe depuis plus de 100 ans. Et en fait, on va visiter les locaux, les laboratoires, rencontrer les personnes qui font vivre ce campus, en fait, de Sorbonne Université, et au travers d'interviews, de reportages et de toutes les créations sonores sur lesquelles vous avez l'habitude d'entendre sur Cours d'honneur, eh bien on va vous faire découvrir ce lieu où des étudiants étudient, où des laborantins font de la recherche. On parle de biologistes marins que l'on va rencontrer. Et en fait, on va vous raconter c'est quoi être étudiant à la Sorbonne, à Roscoff, puisque vous savez, c'est le credo de l'émission Cours d'honneur.
Et on a un fier breton sur le plateau. Est-ce que tu avais, parce que personnellement, en bonne parisienne que je suis, j'avais jamais entendu parler de Roscoff. Est-ce que toi, Malo, tu connais un peu le milieu?
J'avoue que moi, je suis breton, mais plus de l'Est, plutôt Côte d'Armor, Ille-et-Vilaine, pardon, pas trop Finistère, Morbihan. Donc je connais juste de nom, mais malheureusement, je crois que je suis jamais allé. Et je vais pas y aller, malheureusement, je suis un peu blessé, donc j'espère que vous nous ramènerez des bons souvenirs.
En tout cas, Brett fait des chips cheddar et oignons de Roscoff.
Oui, j'ai vu ça
aussi, ouais, le patron.
Vous en ramènerez pour l'équipe qui ne part pas?
J'ai un paquet dans mon sac.
Ah, oh, voilà, on sait ce qu'on fait après, allez. Alors.
Et bah, j'ai l'impression que c'est déjà la fin de cet épisode de Cours d'honneur. Mais oui, on sait, on va beaucoup vous manquer. Mais en attendant, vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur nos plateformes et nous suivre sur les réseaux. Même si, entre nous, Victoire, celui-là, il est quand même vraiment sympa, bercé par nos 12 voix d'animatrice en devenir. Merci à toute l'équipe. Abel. Jeanne.
Ah, merci.
Merci beaucoup.
Malo.
Merci.
Madeleine.
Merci.
Lilou, tu n'es pas là, mais on ne t'oublie pas. Probablement que tu nous remercies également. Et bravo à notre recruteur en chef qui, on l'espère, même ce soir, nous a préparé des crêpes. Merci Thomas. On remercie aussi Radio Campus et le service culturel pour leur soutien. Nous, on file faire nos valises. Sans oublier nos caouets, parce que dans 24 heures pétantes, on envahit Roscoff. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, bisous.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié? Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter?
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.